T'as pas entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le brûler?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion.
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la.
Mais alors.
La 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 la. La, 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 la,
non, je voulais savoir. Tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah, un
c'est
incendie.
C'est normal.
Oui, oui, oui.
Ouais. La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un peu?
Essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Ouais.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu et que nous ne sommes plus soutenus par rien.
Ouais.
Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur. C'est normal. La 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 la. La, la.
Du quatrième étage?
C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. La.
D'accord.
La 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 la.
La 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 la. La 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 la.
La 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 la. Quoi? Quoi?
Pardon, mais je pense à un truc.
Ouais.
On va pas mourir dans une minute.
Brigitte, tu es fatigante.
Pardon.
Non. On est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc,
ouais.
Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et se tient.
Ouais.
Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends?
Ouais, ouais.
On écoutait Brigitte Fontaine et Areski qui donnaient un petit peu leur opinion sur la relation entre les sexes. Et c'est de ça que Elisabeth Badinter a parlé il y a 2 semaines à l'Université de Genève. Une conférence qui parlait qu'Elisabeth Badinter... donnait à partir de son livre qui a eu énormément de succès et qui s'appelle L'un et l'autre, écrit, orthographié, EST. Dans ce livre, Elisabeth Badinter fait à travers les âges, depuis le néolithique jusqu'à maintenant, la très longue et très douloureuse histoire du couple, des relations entre les hommes et les femmes. Elle imagine trois périodes. Une période du néolithique où il s'agirait de relations du genre l'un et l'autre, où la complémentarité entre les sexes ne veut pas dire suprématie d'un sexe sur l'autre. Chaque sexe se voit attribuer certaines tâches très précises qui sont spécifiques à son sexe, mais ces tâches ne sont pas dévalorisées ou valorisées. C'est la complémentarité. À partir de cet âge se construit une autre époque, c'est l'un sans l'autre, où les tâches sont tout aussi spécifiques, mais un sexe domine l'autre, c'est l'ère du patriarcat. Et puis on arrive aujourd'hui à l'un et l'autre, à l'ère de la ressemblance, à l'ère du même. Plus de problèmes, les femmes peuvent entrer, il n'y a plus aucun lieu qui est interdit aux femmes, les femmes peuvent aller partout, les hommes bientôt feront des enfants, les différences s'estompent, elles se suppriment peu à peu, et s'ouvre donc une nouvelle ère marquée par la mort du patriarcat. Nous écoutons donc cette retransmission de la conférence d'Elisabeth Badinter qui sera suivie d'un débat. Vous pouvez nous téléphoner au 50 40 51 41 023 depuis la Suisse pour faire aussi vos commentaires.
Je ne fais pas un cours ce soir, mais je voudrais un peu introduire pendant une vingtaine de minutes sur ce que j'ai voulu faire, sur ce que j'ai voulu dire. Et je vous dis franchement, mon plaisir à moi, ça n'est pas de parler pendant une heure, c'est de dialoguer avec la salle. C'est-à-dire qu'après tout, vous êtes tous hommes ou femmes, et vous avez tous des opinions sur l'évolution du rapport des sexes. Je souhaite vivement que s'engage entre vous et moi un dialogue, des questions, tout ce que vous voulez, et moi d'y répondre, c'est mon plaisir, et je voudrais me faire plaisir ce soir. Alors avant d'en arriver aux questions qu'on peut se poser, je voudrais d'abord commencer en vous disant que ce livre que j'ai écrit et sur lequel à propos duquel je vais parler ce soir, est en fait un livre axé évidemment sur ce qui se passe aujourd'hui, même si c'est la dernière partie du livre et même si ça n'est pas le tout du livre. Et d'ailleurs, il est le résultat d'un travail qui a été fait à l'École Polytechnique pendant 6 ans, en séminaire. Et pendant 6 ans, nous avons travaillé sur quoi ? Sur l'évolution du rapport entre hommes et femmes depuis les années 60-70. Et je dois dire qu'en 6 ans, nous avons accumulé énormément de données, énormément de choses, et que bien entendu, dans le livre, n'en figure même pas le tiers. Mais c'était effectivement le sujet qui intéressait mes élèves et qui m'intéressait moi, parce que j'avais le sentiment, avant même de commencer, que nous étions en train de vivre quelque chose de tout à fait exceptionnel, dont je ne voyais aucun modèle préalable, ni dans le temps, ni dans l'espace. Et je me suis posé la question de savoir quelle était l'importance de ce que nous étions en train de créer, pour finir justement en me disant que c'était d'une importance telle qu'on pourrait peut-être parler d'une mutation. Alors, avant d'en venir au résumé de ce modèle qui est en train de se faire, que nous sommes en train de construire nous-mêmes, j'aurais voulu quand même dire un mot, et je le dis presque honteusement, sur le modèle précédent, sur celui que nous sommes en train de quitter, c'est-à-dire le modèle de la complémentarité des sexes, et disons-le plus franchement encore, le modèle du patriarcat. Et si je dis que je vais en parler très peu, c'est pas vraiment parce que j'ai honte, mais parce que je remarque que depuis quelques années, les femmes n'osent plus évoquer le modèle précédent, qui a été un modèle d'une terrible injustice, où les hommes se sont si mal conduits avec les femmes. Elles n'osent plus en parler parce qu'elles sont immédiatement taxées de féminisme, ce qui est presque une injure dans la bouche de certains. Et que d'autre part, j'ai bien conscience que les hommes qui ont vécu les deux modèles, c'est-à-dire ceux qui ont aujourd'hui plus de 35 ou 40 ans et bien entendu au-delà, en ont assez qu'on leur parle du patriarcat, ils en ont assez qu'on leur parle de l'oppression des femmes, tandis que les plus jeunes pensent à juste titre qu'ils n'ont pas apporté le péché de leur père, et qu'ils en ont eux aussi assez qu'on évoque toujours ce passé. Au demeurant, je pense qu'on ne peut pas saisir l'importance de la mutation actuelle si on ne revient pas sur le passé, si on ne peut pas mesurer la distance inouïe qu'il y a entre ces deux modèles. Alors, qu'est-ce que nous quittons? Et c'est comme ça que nous mesurerons mieux ce que nous sommes en train de construire. Nous quittons d'abord quelque chose, un type de rapport qui semble tellement archaïque, tellement universel, que nous ne trouvons aucun contre-exemple dans l'histoire. C'est le rapport de complémentarité des sexes. C'est le modèle de la complémentarité des tâches réparties entre hommes et femmes. C'est extraordinaire de voir que tant du côté de l'anthropologie ou du côté de l'histoire, voire même de la préhistoire, on ne trouve jamais un type de société où il n'y ait pas accusé la complémentarité des rôles. C'est-à-dire qu'il y a toujours une tâche spécifique réservée, une au minimum, et souvent plusieurs, réservée à un sexe et interdite à l'autre, et inversement. Et ce modèle est tout à fait universel, et c'est avec ça que nous sommes en train de rompre. Et je ne cache pas ni les dangers, ni l'angoisse que ça peut procurer. Et donc, nous avions l'habitude, au fond, d'opposer l'homme et la femme comme l'un faisant ce que l'autre ne fait pas, l'un étant ce que l'autre n'est pas. Et on parlait et on pensait que tout ça se faisait dans une complémentarité, d'ailleurs sans se demander trop si cette complémentarité était véritablement égalitaire ou non. Autrement dit, le monde était divisé en deux. Il y avait une sphère féminine et une sphère masculine. Et le monde a vécu au moins comme ça pendant 35 000 ans. Seulement voilà, cette complémentarité, si je m'en tiens à l'histoire, je ne parle pas de la préhistoire, cette complémentarité des sexes a rarement, très rarement, je n'ose pas dire jamais, rarement été vécue dans l'égalité. Et mystérieusement d'ailleurs, quand on parle de différence, quand on pense à la différence, dans notre inconscient, nous associons cette différence avec un signe plus et un signe moins. Celui qui est différent de nous, on le considère parfois, mais rarement, mieux que nous, mais en tous les cas, il y a un élément de comparaison, injustifié, je vous l'accorde, mais qui apparaît. Et de fait, entre hommes et femmes, le rapport de complémentarité a été vécu, non pas dans l'égalité, mais plutôt dans l'oppression. Alors pardonnez-moi, messieurs, de revenir une seconde à cette oppression. Le modèle du rapport homme-femme donc, que nous quittons a pour nom patriarcat et se définit par le pouvoir du père d'abord, puis du mari ensuite, sur la femme. Ce pouvoir a été notamment dans toute la région méditerranéenne, je dirais même de Gibraltar jusqu'au Japon, a été un patriarcat très dur, très oppressif pour les femmes. Tant et si bien d'ailleurs que, et jusqu'aujourd'hui notamment dans les sociétés maghrébines notamment, mais encore dans les sociétés occidentales jusqu'au XVIIIe siècle, on peut dire que l'un avait tout pouvoir sur l'autre et que la femme a été jusqu'à être représentée soit par Satan, comme une satane représentant de Satan, soit comme un animal. Enfin bref, comme une autre partie de l'humanité, tant et si bien que je me suis posé la question de savoir si à certaines époques et dans certaines civilisations, la femme appartient vraiment à l'humanité. Si je veux, si vous voulez, résumer en un mot les caractéristiques de ce patriarcat, à part l'oppression dont je viens de parler et le fait qu'un homme a autorité en tant que père et en tant que mari, je vous rappellerai deux données essentielles. La première qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, c'est que l'homme, jusqu'à la possibilité de la contraception féminine, l'homme a été responsable de la procréation. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la seule contraception possible, efficace, qui apparaît notamment très fortement au XVIIIe en France, c'est le coït interruptus. Et donc c'était lui qui décidait de se retirer ou non, et c'est donc lui qui était, je ne cache pas les difficultés de la technique, mais c'était lui néanmoins qui était responsable donc de la contraception d'une part, si j'ose dire, et surtout des enfants qui allaient naître ou ne pas naître. Premier point donc, au fond, le corps de la femme est commandé par les pulsions de l'homme. Deuxième caractéristique de ce patriarcat, c'est que la maternité était le destin féminin obligé et que la maison était le domaine spécifiquement féminin, je n'ose pas dire la prison. Troisième caractéristique de ce patriarcat, et notamment après le XVIIIe siècle où l'éducation est à l'œuvre du jour, je vous rappelle qu'il faudra attendre près de 100 ans pour que les femmes aient le droit à une éducation semblable à celle des hommes, c'est-à-dire au fond qu'elles gagnent l'autonomie intellectuelle. Je pense que ce sont déjà trois données considérables dont on voit à quel point elles ont été mises hors de l'actualité. Donc, conséquence de ce modèle que nous quittons, même difficilement, même si c'est rapidement, la différence radicale entre hommes et femmes et l'exclusion de la femme dans beaucoup de sociétés, hors donc de l'idée d'humanité. C'est le sexe dangereux, et elle a souvent été le sexe dangereux, la source de désordre. J'en veux pour exemple notamment les textes, des textes de commentaires des textes sacrés par les musulmans, ou certains textes de la Bible. Les choses ont évolué doucement, et je considère pour ma part qu'il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour que, d'une certaine façon, le patriarcat commence à agonir, commence tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup, doucement, à être sapé. Et c'est intéressant de voir que c'est finalement une idéologie d'hommes pour les hommes qui servira aux femmes à se libérer elles-mêmes. Je veux parler de l'idéologie des droits de l'homme. Il est certain qu'à la fin du XVIIIe, à partir de la fin du XVIIIe et dans toutes les démocraties occidentales, de la fin du XVIIIe pendant tout le XIXe, l'idéologie des droits de l'homme va servir de référence, voire de Bible, et elle dit quoi, cette idéologie? Que les êtres humains ne sont pas hiérarchiquement différents, mais sont égaux, que les êtres humains ne sont pas nés pour être les esclaves des autres, que les êtres humains devraient entretenir entre eux une certaine fraternité. Mais ce que j'ai toujours trouvé extrêmement mélancolique, c'est que les hommes de la Révolution française avaient oublié d'intégrer les femmes dans cet idéal. Et c'est pourtant au nom de cet idéal que peu à peu, les femmes vont renverser la vapeur. Renverser la vapeur, je voudrais être plus explicite. Les grandes révolutions des mœurs ont toujours lieu en changeant la culpabilité de camp. Et si les femmes ont pu effectivement modifier cette idéologie patriarcale et se servir notamment de l'idéologie des droits de l'homme, c'est parce qu'elles ont fait changer la culpabilité de camp. Peu à peu, mais elles y sont arrivées. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles je m'étonne aujourd'hui encore que les hommes restent muets face au discours des femmes. C'est peut-être parce qu'ils sont si coupables, les pauvres, qui n'ont pas vraiment trouvé de discours adéquat autre qu'agressif pour parler aux femmes. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Je disais donc qu'au XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe, les hommes ont détruit, sapé le patriarcat politique en tuant le roi, la monarchie absolue. En laïcisant l'État, ils ont peu à peu établi une démocratie. Il faudra attendre les années 60-70 du XXe siècle pour que le patriarcat familial tombe à son tour, c'est-à-dire presque 200 ans, pour que, enfin, les femmes bénéficient des mêmes droits que les hommes. Je sais bien que quand on dit ça, ça agace certains. Mais pourtant, c'est encore si récent que je ne peux pas considérer sans émotion le sort, la façon dont ont vécu nos mères, voire nos arrière-grand-mères. Alors pourquoi puis-je dire aujourd'hui que le patriarcat est mort? Je veux dire par là qu'il est idéologiquement mort, qu'il n'y a plus de valeurs positives associées à ce système-là. Et que si on voulait le faire revivre, il faudrait trouver un autre système de valeurs tout à fait en contradiction avec le nôtre actuellement. Je dis que le patriarcat est idéologiquement mort parce que ses trois fondements ont été sapés en 15 ans. Premièrement, les femmes ont mis fin, même avec difficulté, à la division sexuelle des tâches. Et le monde n'est plus coupé en deux, le monde n'est plus coupé en deux parties valorisées ou dévalorisées. C'est un monde, d'une certaine façon, un monde unisexe ou un monde androgyne, ce serait plus précis, qu'elles sont en train de créer. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, elle aussi sans précédent, il n'y a pas une seule activité dite masculine qui soit ignorée des femmes. Pas une seule, tant et si bien d'ailleurs, il ne reste plus aucune activité spécifiquement masculine. En revanche, vous comprendrez tous qu'il reste une activité spécifiquement féminine et que celle-là, pour l'instant, du moins, les hommes ne la partagent pas. Le deuxième fondement du patriarcat, c'était justement la maîtrise du corps féminin par la société. La contraception, qui existe donc depuis quinzaine d'années dans les pays occidentaux, a donné à la femme une puissance absolue sur son corps. Mais plus encore qu'une puissance absolue sur son corps, elle a puissance absolue sur la procréation masculine. Et on en est aujourd'hui, on est aujourd'hui devant la situation suivante, c'est qu'une femme peut faire un enfant à un homme sans l'avertir et sans jamais lui dire qu'il est père. Et inversement, une femme peut refuser à un homme qui le désire un enfant. Elle a donc une puissance absolue sur son, sur sa paternité, ce qui est un renversement radical par rapport à la situation précédente. Enfin, troisième fondement du patriarcat, c'est la fin du mariage comme échange des femmes. Aujourd'hui, les familles, les pères, n'échangent plus leurs filles ou leurs sœurs, si ce sont les frères, pour nouer des alliances entre deux familles. Le mariage est devenu une affaire tout à fait privée, qui ne concerne plus les familles, et très souvent on se trouve devant cette situation qui consiste à, pour deux familles, les deux familles des deux conjoints, à se trouver l'un en face de l'autre le jour du mariage, sans s'être jamais vus avant, et en ressentant très bien qu'ils ne se reverront plus non plus après. En conséquence, le mariage étant devenu une affaire privée, n'est plus en aucune façon le lieu de l'oppression féminine telle qu'elle était dans les systèmes patriarcaux. Alors, bien entendu, quand je dis le patriarcat est mort, j'ai bien précisé qu'il est idéologiquement mort, et que entre la mort idéologique d'un système et le fait que le nouveau système soit intégré dans les pratiques quotidiennes des gens, il se passera bien sûr quelques décennies. Et nous pourrons très simplement, très très facilement repérer encore des tas d'ersatz, des cas de signes de patriarcat qui continuent de persister ici ou là. Rassurons-nous, ce sont les derniers signes. Et d'ailleurs, c'est individuellement qu'il convient de lutter contre. Je peux vous dire ça en toute sérénité, parce qu'on me dit toujours, vous êtes bien optimiste d'annoncer ça, c'est que quand on a une approche historique du problème des mœurs, on peut constater que c'est toujours comme ça que ça se passe. Quand j'ai étudié l'histoire du comportement maternel, il était évident qu'à la fin du XVIIIe siècle, idéologiquement, une nouvelle image de la bonne mère était apparue et que tous les gens des classes favorisées étaient bien d'accord pour parler d'instinct maternel, de mère toute dévouée, de mère qui devait garder son bébé dans les bras, etc. Et entre le moment où ce modèle a été accepté par l'intelligentsia et le moment où ça s'est intégré dans toutes les classes de la société, il a fallu exactement 100 ans. Alors je dis, rassurez-vous, ça ne durera pas 100 ans, parce que ça va beaucoup plus vite maintenant, mais à mon avis, il faudra encore quelques décennies pour mettre fin vraiment à un système d'oppression d'un sexe par l'autre. Alors, vous me direz, mais pourquoi on a mis fin à un système, mais pourquoi construire? Est-ce que le modèle que nous sommes en train de construire est vraiment la panacée? Est-ce que vraiment on a eu raison de laisser là un modèle qui avait fait ses preuves après tout, qui était universel, qui semblait même naturel à beaucoup, pour construire un modèle dont nous ressentons aujourd'hui des difficultés, des frustrations et pas une entière satisfaction? Alors je vous dirais tout de suite que ce modèle de la ressemblance que j'ai tâché de décrire dans mon livre, ce modèle de l'androgynie extériorisée, d'abord dont on a pris conscience ensuite qu'on extériorise, je n'ai jamais pensé, je ne pense pas que ce soit un modèle idéal. Et je crois qu'il a peut-être été utopique pour certaines féministes, notamment d'ailleurs chez les Américaines, de penser que le féminisme apporterait le nirvana sur la Terre. Et que quand on mettrait fin aux inégalités, on mettrait fin à tous les conflits, ce serait le paradis. Je crois d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, les Américaines déçues ont tendance à faire marche arrière. Mais peut-être je m'expliquerai plus longuement sur ce point tout à l'heure. Donc je décris quoi ? Un modèle de la ressemblance des sexes. Je ne suis pas une militante de ce modèle. Je fais un constat des faits. Constat des faits qui concernent exclusivement les sociétés occidentales industrialisées. En ajoutant cette nuance que les études que j'ai pu avoir sur les sociétés de l'Est, sur les pays de l'Est, sont à peu près dans la même mouvance que nous. Tout simplement, nous n'avons pas suffisamment de données pour en faire état dans un livre, mais il reste que ce soit les femmes polonaises, hongroises, soviétiques, etc., elles ont les mêmes revendications, les courbes de la natalité sont grossièrement les mêmes que les nôtres, les courbes de divorce aussi, la chute du mariage également, etc., etc. Donc on pourrait penser que ce que nous sommes en train de vivre concerne tous les pays industrialisés, je dirais pour l'instant, sauf le Japon, qui est un pays à part, avec des traditions à part, le poids d'une société à part, etc. Ce modèle de la ressemblance, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que nous sommes en train de prendre conscience de notre nature, qui doit être d'ailleurs archaïque, mais qu'on avait toujours occultée, de notre nature androgyne. Androgyne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on élève les enfants dans la mixité des tâches, on s'aperçoit que l'être humain est double et qu'il a une partie féminine et une partie masculine. Et ça n'est pas une nouveauté, même si aujourd'hui on en prend conscience plus clairement. Ça a dû être toujours comme ça, mais il est intéressant de constater que dans toutes les sociétés connues, l'éducation a toujours eu pour fonction de faire un homme viril et une femme féminine, sous-entendu de faire oublier l'autre partie de soi-même. Je pense d'ailleurs qu'il y avait une explication psychologique très importante et que probablement quand on élevait un petit garçon pour être un guerrier dans les temps anciens ou pour être uniquement un homme dur, capable de se battre, etc., je pense qu'on l'aidait à s'ancrer dans son sentiment d'identité sexuelle. Inversement, quand on élevait les petites filles pour être des femmes douces, passives, soumises, tendres, dévouées, là aussi, on les élevait pour remplir une certaine tâche et probablement, ça pouvait les aider pour se ressentir appartenant au sexe féminin. Aujourd'hui, ça ne se passe plus exactement de cette façon-là parce que les féministes, puisque c'est elles qui sont au cœur, je dirais, début de ce changement, ont considéré, et je les comprends, ont considéré qu'il fallait que l'un et l'autre puissent faire toutes les tâches, puissent accomplir toutes les tâches qu'on pourrait appeler humaines. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune raison pour que les hommes gardent quelques privilèges que ce soit, gardent une spécificité quelconque, et inversement, elles ont beaucoup souhaité que les hommes veuillent bien s'intéresser aux tâches qu'elles accomplissaient traditionnellement et depuis toujours. Et donc cette non-division sexuelle des tâches, cette non-division sexuelle du travail, a certainement été un moteur puissant pour qu'on apprenne à exprimer sa partie féminine et sa partie masculine. Et alors je vous donne les deux exemples les plus caricaturaux, si j'ose dire, de cette ressemblance. Vous savez à quel point, depuis des millénaires, l'activité guerrière a caractérisé le sexe masculin, était, si j'ose dire, la quintessence de l'activité masculine. L'activité guerrière, se battre, risquer sa vie pour défendre les femmes et les enfants. Et on en arrive en ce 20e siècle, et là, nos camarades antinucléaires pourraient écouter d'une bonne oreille, on en arrive à ce paradoxe que d'une part, nous rejetons toute idée de guerre, c'est-à-dire qu'en Occident, nous voyons la guerre de façon extrêmement négative, et le fait même, l'idée d'avoir un fils militaire qui ira se battre ne nous semble en aucun cas glorieux. Les jeunes gens savent, je ne sais pas si c'est le cas en Suisse, mais c'est le cas en France, que si on peut échapper au service militaire, mais quel bonheur, personne n'en a honte, au contraire, on est très content de faire ça. Je veux dire que l'image du guerrier a été complètement amputée de son aspect... de son aspect grandiose d'ailleurs parce qu'il l'était, et que plus personne ne trouve intéressant de risquer sa vie dans une guerre. C'est notre idéologie qui a vraiment changé. Mais d'autre part, je crois que la guerre elle-même, ou celle que nous connaissons de façon si particulière à nos sociétés, n'est même plus le propre de l'homme. Et vous remarquerez que parmi les terroristes et les grands mouvements terroristes européens, que ce soit les brigadistes ou l'armée rouge ou la fraction armée rouge allemande, eh bien, il y avait autant de femmes que d'hommes. Il y avait même plus de femmes que d'hommes. Autrement dit, les femmes ont fait cette démonstration que je trouve abominable, pour ma part, et tragique, si l'on peut dire, mais que le sadisme, la violence, et je dirais même, d'une certaine façon, le courage ou la conscience, ne leur étaient pas plus étrangères qu'aux hommes. Que ce soit donc au niveau des terrorismes européens ou même du Moyen-Orient, vous avez vu comme moi des jeunes femmes qui ont risqué leur vie, qui sont mortes d'ailleurs pour pouvoir tuer plus sûrement des objectifs israéliens. Vous avez vu donc que l'image de la femme armée ne nous est pas étrangère, ne nous est plus étrangère. Ce qui était impensable il y a une centaine d'années. Mais d'autre part, nous portons en nous, occidentaux, cette espèce de terreur qui n'est pas, je ne dis pas qu'on la ressent tous les jours, mais c'est en tous les cas dans notre imaginaire, cette représentation apocalyptique du conflit nucléaire. Et là aussi, la différence des sexes s'efface. Ça veut dire tout simplement que quand nous nous projetons dans une guerre nucléaire, et après tout, c'est une menace qui pèse sur nous, nous ne pouvons nous représenter que tous victimes, hommes et femmes indistinctement. Donc il n'y aura même plus de place pour les vertus masculines traditionnelles, le courage, la défense, l'endurance. Nous imaginons une bombe et nous tous victimes. Et là, les victimes ne se différencieront plus selon leur sexe. Et d'autre part, vous savez comme moi que pour appuyer sur un bouton, homme ou femme, c'est bien indifférent, les deux peuvent le faire. Autrement dit donc, cette activité, cette archaïque première est en train, je dirais, d'une certaine façon, d'échapper de notre horizon, de n'être plus du tout une gloire masculine, ni même une spécificité masculine. Le deuxième exemple, et je m'arrêterai, qui est l'exemple inverse, c'est-à-dire d'un partage absolu de rôle qui était jadis celui des femmes, c'est le problème du parentage. Vous m'excuserez cette invention d'un mot qui n'existait pas. Ce parentage, ça veut dire que depuis une quinzaine d'années, les femmes ont poussé les hommes à entrer dans la nurserie pour s'occuper de leur bébé, et puis elles leur ont demandé de rentrer dans la salle d'accouchement d'une certaine façon pour les aider dans cette circonstance et pour être présent au fond, pour partager, même si c'est tout à fait symbolique, ce moment de la naissance. Et je pense que ceci a puissamment contribué à faire changer les mentalités masculines. Je crois pour ma part que c'est au moment où les jeunes pères, parce que ça concerne plus spécifiquement les jeunes pères, au moment où ces jeunes pères s'occupent de leur bébé, s'occupent de leur nourrisson, voire du bébé qui vient de naître, je crois qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de très féminin qui ressort en eux, qui peut s'exprimer, et que je crois pour ma part qu'à ce moment-là, les hommes peuvent récupérer leur androgynie et leur bisexualité. Et j'ai toujours été frappée de voir qu'un homme, aussi viril soit-il, qui s'occupe de son nouveau-né, il a, au moment où il s'en occupe, une gestuelle extrêmement féminine, maternelle, douce, ce qui ne l'empêche pas, une demi-heure après, s'il va à un match de rugby, de retrouver intégralement sa virilité traditionnelle. Donc, il n'y a plus de division sexuelle des tâches radicale, même si ça traîne ici ou là, chez les uns ou chez les autres. On sait que chacun peut faire tout ce que l'autre fait. Alors, je répondrai, si vous voulez, tout à l'heure à des questions sur le malaise des hommes, en tous les cas tels qu'il m'apparaît, sur les nouveaux rapports qui s'établissent du point de vue de l'amour entre les couples. Mais je voudrais quand même vous finir sur cette hypothèse de l'homme enceinte. Parce que justement, je viens de finir en vous parlant du père qu'on fait rentrer dans la nurserie, puis dans la salle d'accouchement. Vous savez que cette hypothèse est depuis longtemps, c'est-à-dire depuis 5 ans, envisagée par les biologistes qui travaillent sur l'embryon, et que c'est reconnu comme techniquement possible, même avec des grands dangers qui subsistent d'hémorragie, quand on retirerait le placenta du ventre masculin. Et vous savez que ça n'a pas fait une grande histoire, bien que les biologistes sont très au courant de cette affaire. Et puis, j'ai pensé de mon côté que si on en venait à vraiment construire un modèle de la ressemblance des sexes, il y aurait incontestablement un moment où les hommes se diraient « Mais enfin, quel pouvoir les femmes ont aujourd'hui sur nous ?» Et que quand on regarde le rapport homme-femme depuis le paléolithique, on s'aperçoit, et c'est un avantage de l'étude historique, on s'aperçoit très aisément que la procréation est au centre du rapport entre hommes et femmes, et que qui détient le pouvoir ou qui pense détenir le pouvoir à propos de la procréation est celui qui a vraiment le pouvoir. Or aujourd'hui, je viens de le dire, les femmes ont un pouvoir absolu. J'ai pensé que, à partir du moment où les hommes ont tout partagé avec les femmes, quelles que soient d'ailleurs les difficultés qu'ils ont eues à le faire, il se passerait peut-être un moment où ils se diront « Elle détient un pouvoir absolu sur moi, sur ma descendance, je vais peut-être avoir envie de le partager avec elle. » Et puis, cette idée que j'ai développée un petit peu à la fin de mon livre, cette idée-là a fait son chemin et il est paru un sondage qui m'a ouvert les yeux, en tous les cas quant aux problèmes psychologiques de l'homme enceint. Ce sondage avait été publié par un hebdomadaire qui s'appelle Le Nouvel Observateur et qui montrait que les personnes interrogées, les hommes et les femmes interrogées, étaient infiniment plus ouverts à cette idée d'homme enceint que je le soupçonnais moi-même. Vous pouviez peut-être vous-même le soupçonner. Et qu'il y avait un tiers des hommes de moins de 35 ans qui acceptaient l'idée de porter l'enfant de leur femme si la femme ne pouvait pas le porter, ou même pour toute autre raison, qu'il y avait d'autre part 47% des jeunes femmes de moins de 35 ans qui accepteraient que leur compagnon ou leur mari porte leur enfant si elle ne pouvait pas leur porter, et qu'enfin, une majorité écrasante de Français refusait l'idée de légiférer sur cette question, laissant au désir individuel la possibilité d'être satisfait. Et je me suis interrogée, et je me suis dit, mais enfin, c'est inouï que tant de gens n'aient pas aient pris les choses avec, sinon, non seulement intérêt, mais presque sérénité, qu'on n'ait pas crié au scandale, qu'on n'ait pas crié, je dis chez les jeunes, hein, c'est tout à fait différent chez les plus de 35 ans, et qu'on ait accepté cette idée qui est un véritable, authentique bouleversement de la nature. Et donc, devant cette interrogation, j'ai pensé à quelque chose, et c'est pour ça que je fais le lien avec le père dans la nurserie. Je me suis aperçue que depuis que les femmes prennent une contraception, je dis « je », mais ce sont les gynécologues qui parlent, elles portent leur enfant de toute autre façon qu'elles ne le portaient jadis. C'est-à-dire qu'avant la contraception, les femmes ne portaient pas nécessairement les enfants qu'elles désiraient avoir. C'était comme ça, la nécessité, l'obligation. Et souvent, beaucoup passaient une période de grossesse comme si c'était une période de maladie. Et aujourd'hui, les gynécologues constatent unanimement que les troubles secondaires de la grossesse sont en train de disparaître. C'est-à-dire que les femmes sont beaucoup moins malades, elles vomissent beaucoup moins, elles n'ont pas besoin de se coucher, et que de plus en plus de femmes continuent à travailler, semblent épanouies, disons-le, semblent heureuses. Et c'est donc une autre image de la grossesse qui est en train de s'imposer à nous tous. Mais quand je dis à nous tous, ce n'est pas seulement à nous les femmes, c'est aussi peut-être aux jeunes hommes. Et il me semble que passer d'une image de la grossesse terrifiante qui faisait que les hommes se disaient « Dieu merci, j'échappe à ça ». Elles sont malades, elles sont couchées, elles sont dans le noir, elles sont faibles, enfin bref. Associé au fait que la grossesse se terminait dans une imagerie de travail sanglant, de cris, enfin bref, d'horreur, je comprends que pendant des millénaires, les hommes se soient dit « Oh, tant mieux, c'est pas nous ». Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il était d'usage de dire « Les femmes portent les enfants, les hommes font la guerre ». C'était un peu comme ça, chacun risquait, chacun était confronté à la douleur et d'une certaine façon à l'horreur. Or, aujourd'hui, où la grossesse change de signification, je me pose la question de savoir si les hommes ne sont pas, ou les jeunes hommes en tous les cas, et pas tous, mais certains d'entre eux, ne sont pas en train de se dire très, très sereinement, mais après tout, c'est peut-être une expérience superbe que font les femmes, et pourquoi pas nous ? Et donc que certains désirs absolument impensables il y a encore 30 ans sont en train de s'exprimer relativement sereinement. Alors avant de terminer et de vous laisser la parole, je tiens simplement à vous faire remarquer qu'il n'y a eu aucun débat sur les pères enceints, aucune autorité morale, religieuse, politique, scientifique, etc. s'en est mêlée à ce jour, et que d'une certaine façon, et c'est très rare, les gens ont répondu avec leurs tripes. Et non pas du tout avec des idées préconçues, peut-être même, disons-le, sans mesurer non plus quelles étaient les conséquences de leur opinion. Alors je m'arrête là et je serais très heureuse si vous vouliez bien entrer dans le débat avec moi.
C'était donc Elisabeth Badinter qui parlait à l'Université de Genève il y a une dizaine de jours sur le thème donc, qu'elle développe dans son livre « L'un et l'autre ». Vous êtes sur Radio Pleine Lune, 93,8 MHz. Si vous voulez participer au débat qui va avoir lieu, vous pouvez nous téléphoner au 50 40 51 41 023 depuis la Suisse.
Marchait devant moi, ses fesses bougeaient dans son pantalon. Je regardais ses jambes. La première chose que je regarde chez un homme, c'est ses jambes. Ses jambes. J'avais une de ses envies de lui mettre la main aux fesses. J'avais envie de me le faire. Ouais, il faut que je me le fasse. Je parie 20 balles que je me le fais. Je le siffle, je parviens à sa hauteur. Je marche un moment en silence à côté de lui. Je le guette du coin de l'œil, de mon œil. Harnais ses aisselles. J'oubliais l'incident. On ne peut pas toujours vraiment choisir. Comme il marchait seul et qu'il avait l'air très déprimé, je me dis, ça c'est le coup. Le coup à ne pas manquer. Alors mon mignon, on n'est pas content. Et à que je te paye une glace, et puis tu me comptes à tes misères. Un beau gosse qui est triste, moi je peux pas supporter. Alors, comme ça t'es vendeur, tu dois pas gagner beaucoup. Si tu es très très gentil, avec moi j'arrondis tes fins de mois. Tu fais la fine bouche, tu veux pas. Ben quoi, t'es libéré ou pas? Tu prends la pilule, alors ne joue pas ton bégueule, ne fais pas ton petit pêcheur. Tu m'excites et après, ça dure à l'heure. J'étais un peu plus forte que lui, je l'ai gentiment cogné. Comme il disait rien, j'ai tout. suite vu qu'il aimait bien ça, qu'il était